Fénelon, les aventures de Télémaque. Premier livre. Sommaire de l'édition de Versailles, 1824. Télémaque, conduit par Minerve, sous la figure de Mentor, est jeté par une tempête dans l'île de Calypso. Cette déesse, inconsolable du départ d'Ulysse, fait au fils de ce héros l'accueil le plus favorable, et, concevant aussitôt pour lui une violente passion, elle lui offre l'immortalité s'il veut demeurer avec elle. Pressé par Calypso de faire le récit de ses aventures, il lui raconte son voyage à Pylos et à Lacédémone, son naufrage sur la côte de Sicile, le danger qu'il y courut d'être immolé aux mânes d'Anchise, le secours que Mentor et lui donnèrent à Aceste, roi de cette contrée, dans une incursion de barbares, et la reconnaissance que ce prince leur en témoigna en leur donnant un vaisseau phénicien pour retourner dans leur pays. Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse. Dans sa douleur, elle se trouvait malheureuse d'être immortelle. Sa grotte ne résonnait plus de son chant, les nymphes qui la servaient n'osaient lui parler. Elle se promenait souvent seule sur les gazons fleuris dont un printemps éternel bordait son île. Mais ces beaux lieux, loin de modérer sa douleur, ne faisaient que lui rappeler le triste souvenir d'Ulysse qu'elle y avait vu tant de fois auprès d'elle. Souvent, elle demeurait immobile sur le rivage de la mer qu'elle arrosait de ses larmes, et elle était sans cesse tournée vers le côté où le vaisseau d'Ulysse, fendant les ondes, avait disparu à ses yeux. Tout à coup, elle aperçut les débris d'un navire qui venait de faire naufrage, des bancs de rameurs mis en pièces, des rames écartées çà et là sur le sable, un gouvernail, un mât, des cordages flottant sur la côte. Puis elle découvre de loin deux hommes dont l'un paraissait âgé. L'autre, quoique jeune, ressemblait à Ulysse. Il avait sa douceur et sa fierté, avec sa taille et sa démarche majestueuse. La déesse comprit que c'était Télémaque, fils de ce héros. Mais, quoique les dieux surpassent de loin en connaissance tous les hommes, elle ne put découvrir qui était cet homme vénérable dont Télémaque était accompagné. C'est que les dieux supérieurs cachent aux inférieurs tout ce qui leur plaît, et Minerve, qui accompagnait Télémaque sous la figure de Mentor, ne voulait pas être connue de Calypso. Cependant, Calypso se réjouissait d'un naufrage qui mettait dans son île le fils d'Ulysse, si semblable à son père. Elle s'avance vers lui et, sans faire semblant de savoir qui il est, « D'où vous vient ?» lui dit-elle. « Cette témérité d'aborder en mon île ?» « Sachez, jeune étranger, qu'on ne vient point impunément dans mon empire. » Elle tâchait de couvrir sous ses paroles menaçantes la joie de son cœur qui éclatait malgré elle sur son visage. Télémaque lui répondit « Oh, vous, qui que vous soyez, mortel ou déesse, quoiqu'à vous voir on ne puisse vous prendre que pour une divinité, seriez-vous insensible au malheur d'un fils qui, cherchant son père à la merci des vents et des flots, a vu briser son navire contre vos rochers ? Quel est donc votre père que vous cherchez ? Reprit la déesse. Il se nomme Ulysse, dit Télémaque. C'est un des rois qui ont, après un siège de 10 ans, renversé la fameuse Troie. Son nom fut célèbre dans toute la Grèce et dans toute l'Asie par sa valeur dans les combats et plus encore par sa sagesse dans les conseils. Maintenant, errant dans toute l'étendue des mers, il parcourt tous les écueils les plus terribles. Sa patrie semble fuir devant lui. Pénélope, sa femme, et moi qui suis son fils, nous avons perdu l'espérance de le revoir. Je cours, avec les mêmes dangers que lui, pour apprendre où il est. Mais que dis-je ? Peut-être qu'il est maintenant enseveli dans les profonds abîmes de la mer. Ayez pitié de nos malheurs. Et si vous savez, ô déesse, ce que les destinées ont fait pour sauver ou pour perdre Ulysse, daignez en instruire ton fils Télémaque. » Calypso, étonné et attendri de voir dans une si vive jeunesse tant de sagesse et tant d'éloquence, ne pouvait rassasier ses yeux en le regardant, et elle demeurait en silence. Enfin, elle lui dit « Télémaque, nous vous apprendrons ce qui est arrivé à votre père. Mais l'histoire en est longue. Il est temps de vous délasser de tous vos travaux. Venez dans ma demeure, où je vous recevrai comme mon fils. Venez, Vous serez ma consolation dans cette solitude, et je ferai votre bonheur pourvu que vous sachiez en jouir. » Télémaque suivait la déesse environnée d'une foule de jeunes nymphes, au-dessus desquelles elle s'élevait de toute la tête, comme un grand chêne dans une forêt élève ses branches épaisses au-dessus de tous les arbres qui l'environnent. Il admirait l'éclat de sa beauté, la riche pourpre de sa robe longue et flottante, ses cheveux noués par derrière négligemment mais avec grâce, le feu qui sortait de ses yeux et la douceur qui tempérait cette vivacité. Mentor, les yeux baissés, gardant un silence modeste, suivait Télémaque. On arriva à la porte de la grotte de Calypso, où Télémaque fut surpris de voir, avec une apparence de simplicité rustique, tout ce qui peut charmer les yeux. On n'y voyait ni or, ni argent, ni marbre, ni colonne, ni tableau, ni statue. Cette grotte était taillée dans le roc, en voûte pleine de rocailles et de coquilles. Elle était tapissée d'une jeune vigne qui étendait ses branches souples également de tous côtés. Les 12 éphyrs conservaient en ce lieu, malgré les ardeurs du soleil, une délicieuse fraîcheur. Des fontaines, coulant avec un doux murmure sur des prés semés d'amarantes et de violettes, formaient en divers lieux des bains aussi purs et aussi clairs que le cristal. 1000 fleurs naissantes émaillaient les tapis verts dont la grotte était environnée. Là, on trouvait un bois de ces arbres touffus qui portent des pommes d'or et dont la fleur, qui se renouvelle dans toutes les saisons, répand le plus doux de tous les parfums. Ce bois semblait couronner ces belles prairies et formait une nuit que les rayons du soleil ne pouvaient percer. Là, on n'entendait jamais que le chant des oiseaux ou le bruit d'un ruisseau qui, se précipitant du haut d'un rocher, tombait à gros bouillons pleins d'écume et s'enfuyait au travers de la prairie. La grotte de la déesse était sur le penchant d'une colline. De là, on découvrait la mer, quelquefois claire et unie comme une glace, quelquefois follement irritée contre les rochers, où elle se brisait en gémissant et élevant ses vagues comme des montagnes. De notre côté, on voyait une rivière où se formaient des îles bordées de tilleuls fleuris et de hauts peupliers, qui portaient leurs têtes superbes jusque dans les nues. Les divers canaux qui formaient les îles semblaient se jouer dans la campagne. Les uns roulaient leurs eaux claires avec rapidité, d'autres avaient une eau paisible et dormante. D'autres, par de longs détours, revenaient sur leurs pas, comme pour remonter vers leur source, et semblaient ne pouvoir quitter ces bords enchantés. On apercevait de loin des collines et des montagnes qui se perdaient dans les nues et dont la figure bizarre formait un horizon à souhait pour le plaisir des yeux. Les montagnes voisines étaient couvertes de pampres verts qui pendaient en festons. Le raisin, plus éclatant que la pourpre, ne pouvait se cacher sous les feuilles et la vigne était accablée sous son fruit. Le figuier, l'olivier, le grenadier et tous les autres arbres couvraient la campagne et en faisaient un grand jardin. Calypso, ayant montré à Télémaque toutes ses beautés naturelles, lui dit « Reposez-vous, vos habits sont mouillés, il est temps que vous en changiez. Ensuite, nous nous reverrons et je vous raconterai des histoires dont votre cœur sera touché. » En même temps, elle le fit entrer avec Mentor dans le lieu le plus secret et le plus reculé, d'une grotte voisine de celle où la déesse demeurait. Les nymphes avaient eu soin d'allumer en ce lieu un grand feu de bois de cèdre dont la bonne odeur se répandait de tous côtés et elles y avaient laissé des habits pour les nouveaux hôtes. Télémaque, voyant qu'on lui avait destiné une tunique d'une laine fine dont la blancheur effaçait celle de la neige et une robe de pourpre avec une broderie d'or, prit le plaisir qui est naturel à un jeune homme en considérant cette magnificence. Mentor lui dit d'un ton grave « Est-ce donc là, ô Télémaque, les pensées qui doivent occuper le cœur du fils Ulysse? Songez plutôt à soutenir la réputation de votre père et à vaincre la fortune qui vous persécute. Un jeune homme qui aime à se parer vainement comme une femme est indigne de la sagesse et de la gloire. La gloire n'est due qu'à un cœur qui sait souffrir la peine et fouler aux pieds les plaisirs. » Télémaque répondit en soupirant. « Que les dieux me fassent périr plutôt que de souffrir que la mollesse et la volupté s'emparent de mon cœur. Non, non, le fils d'Ulysse ne sera jamais vaincu par les charmes d'une vie lâche et efféminée. Mais quelle faveur du ciel nous a fait trouver, après notre naufrage, cette déesse ou cette mortelle qui nous comble de tant de biens ? Craignez, repartit Mentor, qu'elle ne vous accable de mots. Craignez ces trompeuses douceurs plus que les écueils qui ont brisé votre navire. Le naufrage et la mort sont moins affreux que les plaisirs qui attaquent la vertu. Gardez-vous bien de croire ce qu'elle vous racontera. La jeunesse est présomptueuse, elle se promet tout d'elle-même. Quoique fragile, elle croit pouvoir tout et n'avoir jamais rien à craindre, elle se confie légèrement et sans précaution. Gardez-vous d'écouter les paroles douces et flatteuses de Calypso qui se glisseront comme un serpent sous les fleurs. Craignez le poison caché, défiez-vous de vous-même et attendez toujours mes conseils. Ensuite, ils retournèrent auprès de Calypso qui les attendait. Les nymphes, avec leurs cheveux tressés et des habits blancs, servirent d'abord un repas simple mais exquis pour le goût et pour la propreté. On n'y voyait aucune autre viande que celle des oiseaux qu'elles avaient pris dans les filets ou des bêtes qu'elles avaient percées de leurs flèches à la chasse. Un vin plus doux que le nectar coulait des grands vases d'argent dans des tasses d'or couronnées de fleurs. On apporta dans des corbeilles tous les fruits que le printemps promet et que l'automne répand sur la terre. En même temps, quatre jeunes nymphes se mirent à chanter. D'abord, elles chantèrent le combat des dieux contre les géants, puis les amours de Jupiter et de Sémélée, la naissance de Bacchus et son éducation conduite par le vieux Silène, la course d'Atalante et d'Hippomène qui fut vainqueur par le moyen des pommes d'or venues du jardin des Hespérides. Enfin, la guerre de Troie fut aussi chantée, les combats d'Ulysse et sa sagesse furent élevés jusqu'aux cieux. La première des nymphes, qui s'appelait Leucothoé, joignit les accords de sa lyre à ses douces voix. Quand Télémaque entendit le nom de son père, les larmes qui coulèrent le long des joues donnèrent un nouveau lustre à sa beauté. Mais comme Calypso aperçut qu'il ne pouvait manger et qu'il était saisi de douleur, elle fit signe aux nymphes. À l'instant, on chanta le combat des centaures avec les lapites et la descente d'Orphée aux enfers pour en retirer Eurydice. Quand le repas fut fini, la déesse prit Télémaque et lui parla ainsi. « Vous voyez, fils du grand Ulysse, avec quelle faveur je vous reçois. Je suis immortel. Nul mortel ne peut entrer dans cette île sans être puni de sa témérité, et votre naufrage même ne vous garantirait pas de mon indignation, si d'ailleurs je ne vous aimais. Votre père a eu le même bonheur que vous, mais hélas, il n'a pas su en profiter. Je l'ai gardé longtemps dans cette île. Il n'a tenu qu'à lui d'y vivre avec moi dans un état immortel, mais l'aveugle passion de revoir sa misérable patrie lui fit rejeter tous ses avantages. Vous voyez tout ce qu'il a perdu pour revoir Ithaque, qu'il n'a pu revoir. Il voulut me quitter, il partit, et je fus vengé par la tempête. Son vaisseau, après avoir été le jouet des vents, fut enseveli dans les ondes. Profitez d'un si triste exemple. Après son naufrage, vous n'avez plus rien à espérer, ni pour le revoir, ni pour régner jamais dans l'île d'Ithaque après lui. Consolez-vous de l'avoir perdu, puisque vous trouvez ici une divinité prête à vous rendre heureux et un royaume qu'elle vous offre. » La déesse ajouta à ses paroles de longs discours pour montrer combien Ulysse avait été heureux auprès d'elle. Elle raconta ses aventures dans la caverne du cyclope Polyphème et chez Antiphate, roi des Lestrigons. Elle n'oublia pas ce qui lui était arrivé dans l'île de Circé, fille du soleil, ni des dangers qu'il avait courus entre Scylla et Charybde. Elle représenta la dernière tempête que Neptune avait excitée contre lui quand il partit d'auprès d'elle. Elle voulut faire entendre qu'il était péri dans ce naufrage et elle supprima son arrivée dans l'île des Phéaciens. Télémaque, qui s'était d'abord abandonné trop promptement à la joie d'être si bien traité de Calypso, reconnut enfin son artifice et la sagesse des conseils que Mentor venait de lui donner. Il répondit en peu de mots. « Ô déesse, pardonnez à ma douleur, maintenant je ne puis que m'affliger. Peut-être que dans la suite j'aurai plus de force pour goûter la fortune que vous m'offrez. Laissez-moi en ce moment pleurer mon père. Vous savez mieux que moi combien il mérite d'être pleuré. » Calypso n'osa d'abord le presser davantage. Elle feignit même d'entrer dans sa douleur et de s'attendrir pour Ulysse. Mais pour mieux connaître les moyens de toucher son cœur, elle lui demanda comment il avait fait naufrage et par quelles aventures il était sur ses côtes. « Le récit de mes malheurs, dit-il, serait trop long. » « Non, non, répondit-elle, il me tarde de les savoir. Hâtez-vous de me les raconter. » Elle le pressa longtemps. Enfin, il ne put lui résister et il parla ainsi. « J'étais parti d'Ithaque pour aller demander aux autres rois, revenus du siège de Troie, des nouvelles de mon père. Les amants de ma mère Pénélope furent surpris de mon départ. J'avais pris soin de le leur cacher, connaissant leur perfidie. Ni Nestor, que je vis à Pylos, ni Ménélas, qui me reçut avec amitié dans Lacédémone, ne purent m'apprendre si mon père était encore en vie. Lassé de vivre toujours en suspens et dans l'incertitude, je me résolus d'aller dans la Sicile, où j'avais ouï dire que mon père avait été jeté par les vents. Mais le sage Mentor, que vous voyez ici présent, s'opposait à ce téméraire dessein. Il me représentait d'un côté les cyclopes, géants monstrueux qui dévorent les hommes, de l'autre la flotte d'aînés et des Troyens qui étaient sur ses côtes. « Ces Troyens, disait-il, sont animés contre tous les Grecs, mais surtout ils répandraient avec plaisir le sang du fils d'Ulysse. « Retournez, continuait-il, en Ithaque. Peut-être que votre père, aimé des dieux, y sera aussitôt que vous. Mais si les dieux ont résolu sa perte, s'il ne doit jamais revoir sa patrie, du moins il faut que vous alliez le venger, délivrer votre mère, montrer votre sagesse à tous les peuples et faire voir en vous, à toute la Grèce, un roi aussi digne de régner que le fut jamais Ulysse lui-même. » Ces paroles étaient salutaires, mais je n'étais pas assez prudent pour les écouter. Je n'écoutais que ma passion. Le sage Mentor m'aima jusqu'à me suivre dans un voyage téméraire que j'entreprenais contre ses conseils, et les dieux permirent que je fisse une faute qui devait servir à me corriger de ma présomption. » Pendant qu'il parlait, Calypso regardait Mentor. Elle était étonnée. Elle croyait sentir en lui quelque chose de divin, mais elle ne pouvait démêler ses pensées confuses. Ainsi, elle demeurait pleine de crainte et de défiance à la vue de cet inconnu. Alors elle appréhenda de laisser voir son trouble. « Continuez, dit-elle à Télémaque, et satisfaites ma curiosité. » Télémaque reprit ainsi. « Nous eûmes assez longtemps un vent favorable pour aller en Sicile, mais ensuite une noire tempête déroba le ciel à nos yeux et nous fûmes enveloppés dans une profonde nuit. À la lueur des éclairs, nous aperçûmes d'autres vaisseaux exposés au même péril, et nous reconnûmes bientôt que c'étaient des vaisseaux d'aînés. Ils n'étaient pas moins à craindre pour nous que les rochers. Alors je compris, mais trop tard, ce que l'ardeur d'une jeunesse imprudente m'avait empêché de considérer attentivement. Mentor parut dans ce danger, non seulement ferme et intrépide, mais encore plus gai qu'à l'ordinaire. C'était lui qui m'encourageait, je sentais qu'il m'inspirait une force invincible. Il donnait tranquillement tous les ordres pendant que le pilote était troublé. Je lui disais, « Mon cher Mentor, pourquoi ai-je refusé de suivre vos sages conseils? Ne suis-je pas malheureux d'avoir voulu me croire moi-même dans un âge où l'on n'a ni prévoyance de l'avenir, ni expérience du passé, ni modération pour ménager le présent ?» Oh, si jamais nous échappons de cette tempête, je me défierai de moi-même comme de mon plus dangereux ennemi. C'est vous, Mentor, que je croirai toujours. » Mentor, en souriant, me répondit, « Je n'ai garde de vous reprocher la faute que vous avez faite. Il suffit que vous la sentiez et qu'elle vous serve à être une autre fois plus modérée dans vos désirs. Mais quand le péril sera passé, la présomption reviendra peut-être. » Maintenant, il faut se soutenir par le courage. Avant que de se jeter dans le péril, il faut le prévoir et le craindre. Mais quand on y est, il ne reste plus qu'à le mépriser. Soyez donc le digne fils d'Ulysse, montrez un cœur plus grand que tous les maux qui vous menacent. » La douceur et le courage du sage Mentor me charmèrent, mais je fus encore bien plus surpris quand je vis avec quelle adresse il nous délivra des Troyens. dans le moment où le ciel commençait à s'éclaircir et où les Troyens, nous voyant de près, n'auraient pas manqué de nous reconnaître, il remarqua un de leurs vaisseaux, presque semblable à celui des nôtres que la tempête avait écarté, et dont la poupe était couronnée de certaines fleurs. Il se hâta de mettre sur notre poupe des couronnes de fleurs semblables, il les attacha lui-même avec des bandelettes de la même couleur que celles des Troyens. Il ordonna à tous nos rameurs de se baisser le plus qu'ils pourraient le long de leur banc, pour n'être point reconnus des ennemis. En cet état, nous passâmes au milieu de leur flotte. Ils poussèrent des cris de joie en nous voyant, comme en voyant des compagnons qu'ils avaient cru perdus. Nous fûmes même contraints par la violence de la mer d'aller assez longtemps avec eux. Enfin, nous demeurâmes un peu derrière, et pendant que les vents impétueux les poussaient vers l'Afrique, nous fîmes les derniers efforts pour aborder à force de rames sur la côte voisine de Sicile. Nous y arrivâmes en effet, mais ce que nous cherchions n'était guère moins funeste que la flotte qui nous faisait fuir. Nous trouvâmes sur cette côte de Sicile d'autres Troyens ennemis des Grecs. C'était là que régnait le vieux Aceste, sorti de Troie. À peine fûmes-nous arrivés sur ce rivage que les habitants crurent que nous étions d'autres peuples de l'île armés pour les surprendre ou des étrangers qui venaient s'emparer de leurs terres. Ils brûlent notre vaisseau dans le premier emportement, ils égorgent tous nos compagnons. Ils ne réservent que Mentor et moi pour nous présenter à Aceste afin qu'il pût savoir de nous quels étaient nos desseins et d'où nous venions. Nous entrons dans la ville avec les mains liées derrière le dos et notre mort n'était retardée que pour nous faire servir de spectacle à un peuple cruel quand on saurait que nous étions grecs. On nous présenta d'abord à Aceste qui, tenant son sceptre d'or en main, jugeait les peuples et se préparait à un grand sacrifice. Il nous demande d'un ton sévère quel est notre pays et le sujet de notre voyage. Mentor se hâta de répondre et lui dit « Nous venons des côtes de la Grande Hespérie et notre patrie n'est pas loin de là. » Ainsi, il évita de dire que nous étions grecs. Mais Aceste, sans l'écouter davantage et nous prenant pour des étrangers qui cachaient leurs desseins, ordonna qu'on nous envoyât dans une forêt voisine où nous servirions en esclaves sous ceux qui gouvernaient ces troupeaux. Cette condition me parut plus dure que la mort. Je m'écriai « Ô roi, faites-nous mourir plutôt que de nous traiter si indignement. Sachez que je suis Télémaque, fils du sage Ulysse, roi des Itaciens. Je cherche mon père dans toutes les mers. Si je ne puis ni le trouver, ni retourner dans ma patrie, ni éviter la servitude, ôtez-moi la vie que je ne saurais supporter. » À peine eus-je prononcé ces mots, que tout le peuple ému s'écria qu'il fallait faire périr le fils de ce cruel Ulysse dont les artifices avaient renversé la ville de Troie. « Ô fils Ulysse, me dit Aceste, je ne puis refuser votre sang aux mânes de tant de Troyens que votre père a précipité sur les rivages du noir Cocyte. Vous et celui qui vous amène, vous périrez. » En même temps, un vieillard de la troupe proposa au roi de nous immoler sur le tombeau d'Anchise. « Leur sang, disait-il, sera agréable à l'ombre de ce héros. Aîné même, quand il saura un tel sacrifice, sera touché de voir combien vous aimez ce qu'il avait de plus cher au monde. » Tout le peuple applaudit à cette proposition et on ne songea plus qu'à nous immoler. Déjà, on nous menait sur le tombeau d'Anchise. On y avait dressé deux autels où le feu sacré était allumé. Le glaive qui devait nous percer était devant nos yeux. On nous avait couronnés de fleurs et nulle compassion ne pouvait garantir notre vie. C'était fait de nous quand Mentor demanda tranquillement à parler au roi. Il lui dit « Ô Aceste, si le malheur du jeune Télémaque, qui n'a jamais porté les armes contre les Troyens, ne peut vous toucher, du moins que votre propre intérêt vous touche. La science que j'ai acquise des présages et de la volonté des dieux me fait connaître qu'avant que 3 jours soient écoulés, vous serez attaqué par des peuples barbares qui viennent comme un torrent du haut des montagnes pour inonder votre ville et pour ravager tout votre pays. Hâtez-vous de les prévenir, mettez vos peuples sous les armes et ne perdez pas un moment pour retirer au-dedans de vos murailles les riches troupeaux que vous avez dans la campagne. Si ma prédiction est fausse, vous serez libre de nous immoler dans 3 jours. Si, au contraire, elle est véritable, souvenez-vous qu'on ne doit pas ôter la vie de ceux de qui on la tient. » Aceste fut étonné de ces paroles que Mentor lui disait avec une assurance qu'il n'avait jamais trouvée en aucun homme. « Je vois bien, répondit-il, ô étranger, que les dieux qui vous ont si mal partagé pour tous les dons de la fortune vous ont accordé une sagesse qui est plus estimable que toutes les prospérités. » En même temps, il retarda le sacrifice et donna avec diligence les ordres nécessaires pour prévenir l'attaque dont Mentor l'avait menacé. On ne voyait de tous côtés que des femmes tremblantes, des vieillards courbés, de petits enfants, les larmes aux yeux, qui se retiraient dans la ville. Les bœufs mugissants et les brebis bêlantes venaient en foule, quittant les gras pâturages et ne pouvant trouver assez d'étables pour être mises à couvert. C'était de toutes parts des cris confus de gens qui se poussaient les uns les autres, qui ne pouvaient s'entendre, qui prenaient dans ce trouble un inconnu pour leur ami et qui couraient sans savoir où tendaient leurs pas. Mais les principaux de la ville, se croyant plus sages que les autres, s'imaginaient que Mentor était un imposteur qui avait fait une fausse prédiction pour sauver sa vie. Avant la fin du 3e jour, pendant qu'ils étaient pleins de ces pensées, on vit sur le penchant des montagnes voisines un tourbillon de poussière, puis on aperçut une troupe innombrable de barbares armés. C'étaient les Imériens, peuple féroce, avec les nations qui habitent sur les monts d'Hébrod et sur le sommet d'Akratas, où règne un hiver que les zéphyrs n'ont jamais adouci. Ceux qui avaient méprisé la sage prédiction de Mentor perdirent leurs esclaves et leurs troupeaux. Le roi dit à Mentor : « J'oublie que vous êtes des Grecs. Nos ennemis deviennent nos amis fidèles. Les dieux vous ont envoyés pour nous sauver. Je n'attends pas moins de votre valeur que de la sagesse de vos conseils. Hâtez-vous de nous secourir. » Mentor montre dans ses yeux une audace qui étonne les plus fiers combattants. Il prend un bouclier, un casque, une épée, une lance. Il range les soldats d'Aceste. Il marche à leur tête et s'avance en bon ordre vers les ennemis. Aceste, quoique plein de courage, ne peut, dans sa vieillesse, le suivre que de loin. Je le suis de plus près, mais je ne puis égaler sa valeur. Sa cuirasse ressemblait dans le combat à l'immortelle Égide. La mort courait de rang en rang partout sous ses coups. Semblable à un lion de Numidie que la cruelle faim dévore et qui entre dans un troupeau de faibles brebis, il déchire, il égorge, il nage dans le sang, et les bergers, loin de secourir le troupeau, fuient tremblants pour se dérober à sa fureur. Ces barbares, qui espéraient de surprendre la ville, furent eux-mêmes surpris et déconcertés. Les sujets d'Aceste, animés par l'exemple et par les ordres de Mentor, eurent une vigueur dont ils ne se croyaient point capables. De ma lance, je renversai le fils du roi de ce peuple ennemi. Il était de mon âge, mais il était plus grand que moi, car ce peuple venait d'une race de géants qui était de la même origine que les cyclopes. Il méprisait un ennemi aussi faible que moi, mais sans m'étonner de sa force prodigieuse, ni de son air sauvage et brutal, je poussai ma lance contre sa poitrine et je lui fis vomir en expirant des torrents d'un sang noir. Il pensa m'écraser. Dans sa chute, le bruit de ses armes retentit jusqu'aux montagnes. Je pris ses dépouilles et je revins à Aceste avec les armes du mort que j'avais enlevées. Mentor, ayant achevé de mettre les ennemis en désordre, les tailla en pièces et poussa les fuyards jusque dans les forêts. Un succès si inespéré fit regarder Mentor comme un homme chéri et inspiré des dieux. Aceste, touché de reconnaissance, nous avertit qu'il craignait tout pour nous si les vaisseaux d'aînés revenaient en Sicile. Il nous en donna un pour retourner en notre pays, nous combla de présents et nous pressa de partir pour prévenir tous les malheurs qu'il prévoyait. Mais il ne voulut nous donner ni un pilote, ni des rameurs de sa nation, de peur qu'ils ne fussent trop exposés sur les côtes de la Grèce. Il nous donna des marchands phéniciens qui, étant en commerce avec tous les peuples du monde, n'avaient rien à craindre et qui devaient ramener le vaisseau à Aceste quand ils nous auraient laissés à Ithaque. Mais les dieux, qui se jouent des desseins des hommes, nous réservaient d'autres dangers.